Oui, bonsoir. C'est un rêve que j'ai fait il y a 2-3 semaines. Donc, je suis séquestrée par un homme. Dans la réalité, c'est quelqu'un qui a décidé de me tuer il y a quelques années et qui, par cette décision, m'a empêchée de fréquenter des groupes d'entraide dont j'aurais eu grand besoin à cette époque-là, parce que c'était une époque où je commençais à changer de métier et où vraiment j'aurais eu besoin d'être accompagnée. J'ai pas pu être accompagnée parce que cette personne avait pris cette décision assez draconienne et on me l'avait dit, on m'avait conseillé d'être prudente compte tenu de la personnalité en question. Donc voilà, je suis séquestrée par cette personne, c'est un homme, et à chaque fois que j'essaye de trouver une ruse ou une arme contre lui pour pouvoir m'en libérer, ça ne marche pas. Et il me montre sa puissance encore plus, et il grandit. Si bien que plus je lutte contre lui, quelle que soit la ruse ou l'outil que j'utilise, enfin j'utilise des armes même, ça ne marche pas, au contraire, ça le fait grandir. Et au fur et à mesure du rêve, je me rends compte que je suis dans la chambre où je dormais chez ma grand-mère quand j'étais adolescente, juste après le décès de ma mère. Et il y a l'armoire qui appartenait à ma mère, qui avait appartenu à ma mère quand elle était jeune et qui l'a toujours suivie dans ses pérégrinations, et que j'ai bien connu pendant mon enfance aussi, et qui représente beaucoup la présence de ma mère, représentait beaucoup la présence de ma mère. Et j'ai d'ailleurs, je me suis hâtée de me débarrasser de cette armoire dès que j'ai été majeure. Et donc je me retrouve donc dans cet environnement-là, et je finalement, dans mes tentatives pour me libérer de cette personne, pour essayer de l'agresser ou enfin de trouver, j'attrape une clé anglaise, je me retrouve avec une clé anglaise dans la main, et je le frappe. Et en fait, comme il a grandi au fur et à mesure des luttes et des ruses que j'utilisais, c'est très émotionnel, vraiment, parce que c'était un cauchemar en fait que j'ai fait. Et donc au fur et à mesure, je me retrouve en fait avec la taille d'une petite fille, quelque chose comme 8 ans ou quelque chose comme ça, qui voudrait taper un adulte. Et avec cette clé anglaise, je parviens juste à taper cette personne au visage, plutôt que de pouvoir l'assommer, je réussis seulement à taper cette personne au niveau de la pommette. Et il s'avère que la pommette s'ébrèche parce qu'il s'avère que cette personne porte un masque en plâtre. Et du coup, le coup que j'ai donné, ça le fait rire. Mais quand même, ça l'amène à enlever ce masque. Il le dépose sur la petite table de nuit qu'il y avait à gauche du lit où je dormais. Il pose son masque et je me retrouve devant le masque d'une personne folle, plutôt unisexe, enfin tendance masculine, mais voilà, et qui est ravi de pouvoir me séquestrer, de pouvoir me tenir en son pouvoir, et qui se fiche complètement de quoi que ce soit d'autre. Et à ce moment-là, les deux personnes qui font partie de groupes d'entraide que j'ai trouvé par la suite et où il y a très peu de probabilité pour que la personne qui avait décidé de me tuer intervienne. Donc deux de ces personnes, deux femmes, une femme qui est plus âgée que moi, une femme qui est moins âgée que moi, tapent à la porte en passant prendre de mes nouvelles. Et je fais comprendre, je réussis à faire comprendre à la personne qui me séquestre que son intérêt est quand même que j'aille ouvrir à ces deux personnes pour faire comme si tout allait bien, en grosso modo. Et donc je vais ouvrir aux deux personnes et puis je réussis à leur expliquer la situation et à leur dire que je suis en danger parce qu'en fait cette personne, est dangereuse, elle pourrait me tuer, je sens vraiment qu'il y a un danger et je leur dis, on est samedi, et je leur dis qu'il faudrait, je leur dis que j'ai besoin qu'elles aillent à la police porter plainte pour moi, voilà. Et en fait, ces personnes, au lieu de, ces deux personnes me répondent, oui, mais moi j'ai autre chose de prévu pour aujourd'hui. Et le ton sur lequel elles disent ça me donne l'impression qu'elles ont juste une course à faire ici ou là, et ou je ne sais quoi, peut-être un rendez-vous dentiste, j'imagine des trucs comme ça, mais des choses qui en tout cas me semblent beaucoup moins importantes que ma situation. Et en fait, là, c'est je me retrouve dans un tel état que ça me réveille. Le sentiment d'horreur que j'éprouve, à la fois menacée par cet homme et puis pas secourue par ces deux femmes avec une indifférence absolue, ça me réveille. C'est bizarre parce qu'il y a eu plusieurs étapes dans mon réveil. Donc j'ai l'impression d'être réveillée, mais je me sens pas complètement réveillée et je cherche des solutions pour réussir à m'extirper de ce rêve. En fait, je suis coincée dans le rêve aussi bien que cette personne réussissait à me séquestrer dans cette maison et donc en pensant au fait que j'ai besoin de me libérer de ça, de sortir de l'emprise de ce rêve et de l'emprise de cette personne, j'ai l'idée de menacer ces deux personnes en lui disant mais c'est un non-assistance à personne en danger et si vous ne le faites pas, et si je m'en sors de cette situation dangereuse, moi j'irai me plaindre et il y a vos empreintes digitales ici et la police se retournera contre vous, vous aurez des problèmes. Et du coup, enfin, ça les convainc, entre guillemets. Brusquement, elle se retrouve à effectivement trouver bon d'aller à la police pour me secourir. Et je me réveille, entre guillemets, enfin une espèce d'état un peu moins ensommeillé qu'avant. Et je me sens toujours encore dans ce rêve, je me sens encore dans l'emprise de ce rêve et dans l'emprise des émotions surtout. Et j'ai une rage terrible contre ces deux femmes et j'ai une terreur de l'autre personne qui veut me séquestrer. Je suis en train de me dire, je raconterai ce rêve à mon psy et je m'imagine en train de raconter ce rêve à mon psy. Et pendant que je m'imagine en train de raconter ce rêve à mon psy, je me rends compte qu'en fait, dans la pièce, finalement, au cours de la discussion et au cours des interactions diverses qu'il y a eu avec ces deux personnes, je me rends compte que la porte est ouverte, la porte par laquelle elles sont entrées, et que je suis la personne la plus proche de la porte. Et du coup, je me dis, voilà, la solution, je vais pouvoir partir. Et je me dis, tant pis, je vais laisser mon argent et ce qui m'appartient aux mains de l'autre personne qui me séquestrait. Mais voilà la solution. Et je me réveille, là, pour le coup. Et je me suis réveillée avec une rage terrible contre les deux personnes qui m'avaient pas secouru et que j'ai été obligée de contraindre à me réveiller. Et j'ai eu du mal à me sortir de cette émotion que je sentais pas adaptée à la réalité, parce que dans la réalité, ces personnes n'ont jamais nuit.
Excusez-moi, ce sont qui ces deux personnes ?
Ce sont des personnes qui font partie d'un groupe de parole dont je fais partie également. Et il y en a une qui est plus jeune que moi et l'autre qui est moins jeune que moi.
D'accord, donc ce sont des connaissances simplement.
C'est des connaissances.
Ce sont des images de substitution. Elles représentent certainement d'autres personnes, de voisines, de sœurs, de tantes.
Je ne sais pas ce qu'elle représente. Enfin, pour moi, c'est juste deux figures. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est... Ouais. Enfin, je ne sais pas. C'est...
Oui.
À la limite, ça pourrait être ma mère et ma grand-mère qui ne m'ont pas secouru dans des situations où j'en aurais besoin. Mais...
Alors, quand le masque tombe, que voyez-vous ?
Je vois quelqu'un qui me ressemble, c'est ça qui est terrible. Je vois un visage que j'ai déjà vu sur moi. Enfin, je veux dire, je me suis déjà vue avec ce visage-là, et c'est le visage que j'aime pas de moi.
Alors, ce serait donc plus une femme qu'un homme ?
C'est plutôt masculin, quand même.
Oui, d'abord, ce que vous voyez est une figure masculine que vous identifiez à votre ancien petit ami, ou je ne sais pas.
C'était pas un ancien petit ami, c'était juste quelqu'un que je fréquentais dans ces groupes, dans des groupes de parole, et voilà, qui un jour j'ai posé une limite à cette personne, et la personne n'a pas aimé la façon dont j'ai posé la limite, hein, puis peut-être qu'elle n'a pas aimé non plus le fait que je pose une limite, et ça l'a rendu violent. En tout cas, ça lui a donné des intentions de violence.
Des intentions qui n'ont pas été mises en application.
Non, pour l'instant, non. Je me suis arrangée pour éviter tous les endroits où je pouvais rencontrer
Là, vous vous rendez compte que vous êtes dans un état émotionnel extrêmement fort pendant la narration du rêve, pendant la remémoration de ces séquences, mais que tout ça, ce sont des états émotionnels. Vous n'avez rien de concret sur quoi vous appuyez.
Si, je suis quand même séquestrée par cette personne, et à chaque fois que je lutte contre cette personne,
oui, mais ça, c'est un état émotionnel.
Au contraire, ça lui donne de la force.
Oui.
À chaque fois que je trouve
Alors,
soit une ruse pour m'échapper,
qui se
soit
nous...
un
Alors,
instrument
excusez-moi.
pour lui taper
Oui,
dessus,
attendez,
de toute
excusez-moi.
façon
Christine,
à
Christine, Christine.
diminuer.
Christine. Christine, vous m'entendez? Voilà, vous ne m'entendiez plus. Il y a un besoin compulsif de parler. C'est pour ça que vous appartenez à un groupe de parole. Vous avez été aussi peu entendu étant enfant.
N'y avait pas trop de communication possible.
Ouais, parce que là, vous avez un débit assez impressionnant. Et vous
Je
n'entendez
pense que
plus
c'est
l'autre.
la pression émotionnelle sous laquelle je suis à cause de ce rêve, en
Oui,
fait.
parce que là, ce qui est mis en évidence principalement dans ce rêve, c'est cet état émotionnel qui vous envahit. Heureusement, vous avez une résolution à la fin du rêve, puisque là, c'est la fin du syndrome de Stockholm, quand vous comprenez que vous pouvez sortir.
Ouais, je connais pas le syndrome de Stockholm, mais...
C'est donc un fait historique où des personnes qui ont été prises en otage ont eu de l'amour pour leur séquestreur.
Ah.
Et donc c'est un syndrome qui est connu, on a de l'amour pour la personne qui nous maintient en captivité. Alors, qui a puisé dans votre énergie étant enfant?
Ma mère, ma grand-mère, les deux
Voilà.
chez qui je suis censée habiter, plus, enfin, ça ressemble un peu à ça, quoi. Enfin, les deux, oui, principalement ma mère et ma grand-mère.
Parce que là, ce serait
Ma
donc
mère, oui.
cet amalgame que vous verriez. Et ces deux femmes à qui vous réclamez de l'assistance, ce sont ces figures conscientes. Et cette forme que vous voyez qui vous séquestre, ce sont des formes archaïques et conscientes qui tendent à vous vampiriser. Et donc, plus vous vous débattez, plus vous produisez de l'énergie. Et plus donc vous donnez d'énergie à ces formes primitives, ou à cette entité qui représenterait l'association de votre mère et de votre grand-mère. Mais la peur que vous avez, cette violence que vous supposez chez l'homme qui vous séquestre, elle est plutôt en lien avec la mère et à cette armoire que vous voulez, qui est dans le rêve, qui vous encombre, et que dans la réalité vous avez dégagée. Et c'est donc plus de ce côté-là qu'il faudrait chercher.
C'est-à-dire.
Et bien de la façon dont vous continuez à produire de l'énergie face aux personnes qui vous font peur. Et la recherche que vous avez inconsciente des personnes qui pourraient vous mettre sous influence et vous faire peur.
Oui, ça c'est clair. Ça, je l'ai ressenti. J'ai le sentiment que c'est une espèce d'ennemi intérieur, cette recherche-là.
Alors, dans la réalité, vous l'avez raconté à votre psy, ce rêve,
Oui.
et vous avez été donc satisfaite de ce travail fait dessus.
Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Le travail qui a été fait dessus m'a fait beaucoup de bien. C'est une psychothérapie émotionnelle basée sur les émotions et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a aidé à dégager l'aspect émotionnel extrêmement envahissant et
Mais
du coup
pourquoi justement
j'ai pu
êtes-vous
voir un certain nombre de choses qu'il y avait
pourquoi
derrière.
êtes-vous autant envahi par cet aspect émotionnel encore, alors que vous avez travaillé déjà sur ce rêve?
Je ne sais pas si on arrive en une séance à régler quelque chose qui a duré toute une enfance. Enfin, s'il y a des gens qui y sont parvenus, tant mieux pour eux. Mais...
Non, il est évident que, et ce n'est pas la première fois que vous voyez non plus. Le psy, ce n'est pas votre première séance non plus avec. Est-ce que vous n'êtes pas fasciné malgré vous?
Par le psy?
Par le syndrome de Stockholm.
C'est-à-dire que quand quelqu'un me nuit, parce qu'il s'agit de ça, hein, quand quelqu'un me
Oui.
nuit, ça m'attache à cette personne. Alors
Tout
je
à
ne sais
fait.
pas si on peut parler d'amour, mais en tout cas d'attachement, ça c'est certain.
Enfin oui, attachement, donc amour négatif. Mais là, c'est ce qui est mis en évidence. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous avez les clés dans votre rêve. Quand vous parlez de cette clé anglaise, vous avez les clés, vous avez la capacité de faire tomber le masque. Donc ça, j'imagine que c'est votre travail actif qui se produit. Vous comprenez que la liberté, c'est vous qui pouvez l'obtenir en vous enfuyant, puisque vous voyez que c'est vous qui êtes la plus près de la porte. Mais pourtant, quand vous revenez dans cet état émotionnel, vous êtes complètement fasciné, vous entrez dans ce tunnel de façon incroyable.
Oui.
Parce que là, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il faudrait que vous voyiez des choses de façon plus logique. que vous mettiez des mots logiques, que vous passiez peut-être par l'intellect pour dépasser cet état émotionnel. Parce que cette énergie, cette émotion vous envahit complètement.
Oui, ça c'est très clair, oui.
Et là, vous êtes comme habité quand vous êtes dans cet état. Et il y a un enfant qui essaie de se faire entendre, de se faire entendre, de se faire entendre.
Ouais, et quand vous dites comme habité, effectivement, je me sens presque dans un état de possession, en effet. Complètement, oui, dans un état second, enfin. Même pas besoin de prendre de produits pour ça, quoi. Je suis dans un état modifié de conscience, en
Oui.
effet. Et en fait, dans les groupes de parole, je crois que c'est ce qui se passe dans les groupes de parole, c'est-à-dire que je travaille moins sur l'aspect émotionnel, et dans ces groupes de parole, je mets plus en, je suis plus amenée oui, à rationaliser, enfin, à voir les choses du côté rationnel, à voir les choses sous leur aspect rationnel.
Parce que là, c'est plus ce à quoi je penserais pour vous aider à mieux voir clair, c'est à voir les choses de façon logique et cohérente. Puisque là, vous démasquez la personne, vous voyez que ce visage, finalement, c'est vous qui le produisez maintenant. Vous savez que votre grand-mère et votre mère ont pu être ces personnes qui ne vous ont pas assisté quand vous étiez en danger et qu'elles-mêmes ont pu créer une entité qui vous dévorait. Et il y a pourtant une fascination qui vous oblige à y retourner.
Oui, je me sens piégée.
Alors que la porte est ouverte. Alors il y a un début de discours logique qui se met en place quand vous commencez à penser que vous pouvez les accuser de non-assistance à personne en danger. Et là, c'est quelque chose qui est une accusation. Vous portez directement une accusation sur votre mère et votre grand-mère qu'elles vous ont mis en danger, ne vous ont pas assisté à ce moment-là.
Oui, bah pour tout vous dire, à un moment j'avais même pensé que peut-être bon ma mère est décédée, mais il y a un moment je me suis même renseignée pour savoir si ma mère avait commis un délit à un moment de non-assistance à personne en danger à mon égard.
Bah, elle joue peut-être le rôle du bourreau et de celle qui ne vous sauve pas. À moins qu'il y ait
Oui,
le.
mais le jour où je me suis retrouvée face à un bourreau masculin, elle a pas secouru quoi que ce soit ni qui que ce soit.
Alors là, ce serait plus complexe. Si ce personnage dont vous parlez, ça je ne sais pas.
Le bourreau en question, c'était un pédophile. J'ai été victime d'une agression pédophile et ma mère n'a pas jugé bon de broncher même quand j'en ai parlé. Ça venait de se passer. Et c'est vrai que j'ai encore un sentiment de colère contre elle par rapport à ça. Elle a rien fait, elle a même pas cherché à protéger les enfants qui étaient autour alors que ce gars-là était entouré d'enfants. Donc
Ah
c'est
oui,
vrai
parce
que
que
je suis restée
là, vous
très.
n'avez pas besoin de chercher plus loin. Vous savez pourquoi elle n'a, il y a vraiment un délit de sa part.
Oui, là, il y a eu un délit. Alors, en fait, ce qui m'avait été dit, c'est si personne d'autre n'a porté plainte, il n'y a pas de délit. Voilà. Enfin, j'avais posé la question à Maître Méry qui intervient sur l'antenne de temps en temps, sur ici et maintenant.
Ah ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est aberrant, c'est qu'on va attendre qu'il y ait une autre agression pour pouvoir porter plainte.
Bah oui, c'est la justice qui est comme ça.
C'est monstrueux.
C'est-à-dire que, enfin, disons que moi sur le moment, enfin, ouais, c'est enfin,
Oui, enfin là, vous avez une énorme colère contre votre mère qui n'a pas pris en compte votre douleur,
non, pas
qui ne vous a pas cru.
elle m'a donné l'impression de ne pas me croire. Et puis après, elle m'a donné quand même l'impression qu'elle me croyait, parce qu'elle m'a dit, est-ce que tu veux qu'on en parle? Mais c'était tellement longtemps après, enfin, par rapport à moi, par rapport à ce que j'avais vécu, que c'était fini. Je me suis dit, non, c'est foutu, quoi.
C'était combien de temps après?
Je sais pas, dans le reste de la journée, dans la suite de la journée, mais c'était loin du moment en question. C'est un moment où on s'est retrouvés toutes les deux toutes seules. C'était sur la plage, hein, donc. Il y avait plein d'enfants et puis il se trouve que ma mère avait trouvé bon de me faire passer les vacances avec des enfants des voisins, etc. Donc elle avait un certain nombre de responsabilités vis-à-vis d'autres enfants qu'elle n'a pas cherché à protéger dans cette
Oui, parce que
histoire-là. Donc.
là, il y a vraiment un délit.
Oui, je pense qu'il y a... Enfin, bon, c'est en fait ce que Maître Marie m'avait dit, écoutez, là, comme ça, tout ce que je peux... Enfin, il m'avait dit, c'est un cas d'école, en fait. Mais
si c'est bon, un cas d'école, c'est parfait.
Si personne d'autre n'a été agressé ce jour-là, si personne d'autre, si aucun autre enfant n'a été agressé ou n'a porté plainte, il n'y a pas de délit.
Oui, de façon légale, mais il y a un réel délit dans la mesure où vous avez été agressé, qu'il y a un agresseur potentiel qui est là, et que cet agresseur continue d'habiter votre psychisme. Puisque ouais. Là, ça peut être lui qui est mis en scène dans votre rêve, celui qui donc impose son désir sur vous.
Oui, c'est clair. Et je me sens prisonnière de son désir. D'ailleurs, dans la façon dont ça s'est passé, j'étais physiquement prisonnière de son désir.
Oui, puisque donc sans possibilité, j'imagine le rapport de force totalement disproportionné, ce que vous mettez en scène aussi dans le rêve, où il est énorme. Mais le coupable, c'est votre mère aussi. Là, votre mère a commis un délit en ne dénonçant pas cet homme.
Oui.
Puisque là, il y a donc eu d'autres enfants qui ont pu être agressés.
Ah, clairement, et malheureusement pour eux. Enfin...
Voilà, parce que là, si on parle en termes de justice, effectivement, il faut prouver le délit. Mais si on parle en termes de réalité... Il y a un délit, et la moindre des choses, c'était de dénoncer cet homme, quitte à passer pour une folle. Mais au moins, les gens sont prévenus à ce moment-là.
Ouais. Oui, c'est ça, c'est vraiment qu'elle a rien fait du tout. Quoi. Elle a pas bronché. Je lui ai dit, c'est
mais ça, c'est le délit le plus fréquent.
Je lui ai montré la personne en lui disant ce qu'il avait fait, et elle a rien fait.
Mais ça, c'est un délit qui est extrêmement fréquent. Par peur de déranger, par peur de remuer des choses qui seraient désagréables, par peur de la honte publique, il y a beaucoup de parents qui ne croient pas leur enfant ou qui taisent ce que l'enfant a révélé.
Oui, ben c'était ça, c'était par peur du scandale. Ma mère aimait bien être discrète, alors elle m'a sacrifié à son goût de la discrétion.
Et d'autres enfants?
Et elle a sacrifié d'autres enfants à son goût de la discrétion, absolument.
Parce que là,
elle a sacrifié l'enfance entière, enfin.
Parce que là, c'est ce que vous en cherchez à savoir s'il y a eu un délit. Oui, il y a eu un délit. Et là, il y a réellement non-assistance à personne en danger qui ne concerne pas que vous.
Oui.
Donc là, ce que vous mettez en scène, c'est cette terreur, c'est cette horreur que vous avez vécue qui n'a pas été reconnue. Mmh. Et quand elle vous a proposé d'en parler, vous avez pu en parler?
J'avais plus rien à en dire parce que les portes étaient refermées. Moi, je m'étais blindée, je m'étais dit, c'est foutu, je peux pas compter sur ma mère. Enfin, je me l'étais dit. C'est maintenant que je me rends compte que je me suis dit ça. Sur un moment, je m'étais juste dit, enfin, j'ai pas eu de pensée consciente à cet égard. J'ai juste eu une réaction instinctive qui était, je peux pas compter sur. Enfin, je peux pas vous dire ce que je me suis dit. Mais la réaction, ça a été, je ne peux pas compter sur cette personne, donc c'est pas la peine d'en parler.
Alors, excusez-moi, l'armoire dans votre rêve, comment intervient-elle?
Juste, elle est là. et je sens les émanations de ma mère à travers cette armoire.
D'accord, donc c'est effectivement le rappel de ce ventre qui est toujours là, qui veut vous avaler.
Oui, d'autant que j'ai passé toutes les périodes de Noël avec l'impression d'être coincée dans l'utérus de ma mère, ce qui était extrêmement inconfortable comme sensation.
Oui, là il y a vraiment besoin de travail de dégagement. Hein.
Oui, mais j'ai l'impression... Moi, j'ai le sentiment que ma thérapie me fait du bien, que ma thérapie me dégage effectivement, mais je ne sais pas si le mot dégagement, je le comprends comme vous le dites, je ne sais pas.
Dans la mesure où vous remettez en scène l'armoire, c'est que vous êtes toujours dans ce ventre, et donc ce sentiment dans l'utérus de votre mère, c'est la mère qui vous ravale, qui dénie votre désir, et donc vous avez été... Elle favorise le désir des autres sur vous, à partir du moment où elle dénie votre désir.
Oui, au bout du compte, c'est ça.
Et donc, vous dégager, c'est se dégager de cette matrice qui vous dévore, pour que vous puissiez ressentir votre désir, mettre en place votre pulsion de vie, et que vous ne soyez toujours pas fasciné par ces figures perverses dominantes.
Ouais.
Et que vous ayez le sentiment que vous êtes à votre place... pour faire ce que vous avez à faire, puisque là, il y avait cette problématique d'entraide que vous ne pouvez pas faire. Mais ça me semble peut-être plus logique que vous commenciez d'abord par vous aider avant d'aider les autres.
dans ces groupes, la parole de chacun aide les autres, quelle que soit cette parole.
D'accord.
Donc c'est, je reçois de l'aide, j'en offre si je peux, enfin c'est, mais de toute façon rien que le fait de dire les choses a déjà un effet bénéfique sur les autres, parce que les autres peuvent s'identifier, ça réveille pas forcément, mais ça donne envie de parler, ça fait prendre conscience de certaines choses, enfin voilà.
Alors ce qui serait intéressant comme expérience que vous puissiez faire, c'est de raconter à nouveau ce rêve à une personne qui ne l'a pas entendu et de sentir que vous êtes entendu. Puisque là, dans ce qui a été ressenti, dans la narration de votre rêve, c'est qu'il y a vraiment un sentiment de ne pas être entendu. Ouais. Et vous donnez trop de détails, vous êtes dans une précipitation, dans une excitation. Vous voulez dire le maximum de choses au minimum de temps et vous dites trop de choses pour être vraiment entendu. Donc l'expérience de la narration du rêve avec une autre personne, en voyant comment vous pouvez entrer dans ce tunnel émotionnel, comment vous êtes habité, pour reprendre ce que nous disions tout à l'heure, vous dégager de cette forme et savoir que vous êtes entendu. Parce que là, vous n'avez pas été entendu par votre mère, il y a toujours cette croyance que, quoi que vous disiez, vous ne seriez pas entendu.
Oui, ça c'est... Ouais. ça oui. Et bien en fait, lorsque j'en ai parlé à mon psy, il se trouve que c'est une thérapie de groupe. Effectivement, le bienfait de la thérapie de groupe a été que effectivement j'ai été entendue dans la terreur que j'éprouvais. Et ça a été puissant, vraiment. C'était quelque chose d'important que j'avais à vivre. Et là, en vous le racontant, ça me fait du bien aussi parce que dans vos réactions, j'entends que je suis entendue précisément. Et j'oublie pas que je suis en train de le dire à une radio. Donc,
ah là, pour être entendu, vous êtes entendu ce soir.
Donner des explications, ça me fait du bien aussi, quoi. Il y a besoin d'en mettre les choses en place, quoi. Il y a quelqu'un qui a eu tort et c'était pas moi, quoi.
Ah ça, il y a vraiment un délit, oui, tout à fait.
Il y en a plusieurs, en fait.
Enfin, en tout cas, il y en a un énorme.
Ouais.
Voilà, donc nous allons rester sur ce délit qui est entendu et que d'autres, des milliers de personnes ont pu entendre ce soir.
Ouais.
Parce que là, c'est vraiment la grande thérapie de groupe. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation.
Merci beaucoup, ça a été très, très bénéfique.